Deuxième moment de rencontre avec Brigitte et Gaston Sylvestre, après le théâtre musical que nous avons abordé hier, d'autres formes transversales aujourd'hui, où la musique tient une place non négligeable, et on pourrait, si vous voulez bien, commencer par le cinéma. Est-ce que vous aimez le cinéma, et comment est-ce que vous appréciez la place du son et de la musique au cinéma?
Ah, on aime le cinéma, mais on y va rarement, très rarement, alors que Gaston y allait au moins deux fois par semaine quand il était étudiant. Dans le cinéma, j'aime les moments de silence. Parce que le silence, c'est Cage qui le disait, le silence est musique. Et que je trouve maintenant, on a la chance de pouvoir voir du beau film à la télévision, mais je pense que parfois, le son, c'est too much, quoi. Il y en a trop. Dans les musiques de films qu'on a pu aimer, moi, j'ai adoré la musique de « Il était une fois dans l'Ouest ». J'ai trouvé cette harmonica au début, j'ai trouvé ça absolument sublime.
C'est Ennio Morricone, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, pour ma part, j'écoute pas toujours la musique quand je suis au cinéma. C'est peut-être un tort, mais j'écoute plus ce qui se passe au niveau théâtre, on va dire.
Alors, la musique dans le cinéma est une chose qui est, je pense, incontournable. On est dans une société maintenant où on consomme beaucoup et la musique a perdu un peu son sens à l'intérieur du cinéma. Je vais revenir encore à Kagel qui a imaginé des musiques de films. Il a fait notamment Nostradamus. Il a fait des films d'horreur, composant des musiques pour des films d'horreur imaginaires, et où cette musique, avec simplement un accord, montre toute l'angoisse que l'on peut ressentir à l'intérieur d'un film. Les musiques qui m'ont marqué au cinéma, c'est le septième saut de Berkman, où il y avait une musique absolument fabuleuse. Comment on peut imaginer Fellini sans la musique derrière? C'est absolument impossible. Et c'est une musique qui marche avec le film, c'est une musique qui colle au film, c'est une musique qui est porteur d'image et qui est porteur de sens. La plupart du temps, maintenant, si on regarde dans les grandes productions de cinéma, je ne trouve plus ça, je trouve plus cette correspondance entre l'image et le son. Le son maintenant est fait plus pour remplir le manque de sens à l'image plutôt que de servir l'image.
Vous voulez dire qu'il s'agit d'effets sonores?
D'effets sonores, de remplissage, de peut-être de pallier à une caméra qui est un peu facile.
C'est pas toujours vrai.
On a toujours, si vous voulez, ça marche par des recettes. Ça marche par des gimmicks, ça marche par des plagiats, ça marche, mais il n'y a pas réellement, je dirais, à l'intérieur du cinéma moderne, une création musicale qui est aussi inventive que pourrait être l'image.
Mais dans les films de René, je ne trouve pas que la musique gêne, par exemple. Mais je pense que quand il y a un cinéma de qualité, il y a la même rencontre entre le compositeur et le cinéaste que entre le compositeur et l'interprète. Je pense qu'il y a ce duo qui devrait être indissoluble entre le compositeur-cinéaste, de même qu'entre le compositeur et l'interprète. Je pense que ça vient de ça.
Pour pallier cet effet dont vous parliez à l'instant, Gaston, d'une tendance à l'illustration sonore un peu plate, le cinéaste Jean-Luc Godard avait prôné de désynchroniser complètement le son et l'image. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que ce serait, en tout cas, ce serait une idée riche, et c'est une idée qui est, à mon avis, loin d'être creusée. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un contrepoint entre l'image et le son, je pense que ça attirerait le spectateur vers un fantasme que ne permet pas le cinéma maintenant. C'est-à-dire que quand ça colle à la réalité, que c'est toujours de l'eau de rose quand on s'aime, et puis que c'est toujours violent parce qu'il y a des poursuites, etc., il n'y a pas de lecture en profondeur. On est toujours à plat, et l'écran est plat, et on rend encore l'image un peu plus plate. Effectivement, s'il y avait une dichotomie entre l'image et le son, alors le spectateur serait toujours entre l'image et le son, et peut-être il percevrait l'image d'une autre manière. Vous savez, on est dans une civilisation de l'image, on n'est pas dans une civilisation du son. Et cette image prime sur n'importe quoi. Quand vous faites une prise amateur d'un spectacle qui est en cours de montage, donc il n'est pas un objet fini, qui est simplement un témoin du travail qui est en train de se réaliser, qui ne prétend pas être un objet fini, qui est un objet, un témoin clé d'un instant donné. Et que vous montrez ça à des professionnels qui sont partie prenante de ce projet, et que vous leur présentez ça, personne ne peut avoir le libre arbitre de dire « ça peut devenir ça ». Non, c'est ça. Et donc, on critique simplement le fait que c'est ça, alors que c'est un instant donné, que c'est une recherche de travail, que rien n'est abouti, mais l'image est tellement forte dans notre société aujourd'hui que même le professionnel ne peut pas se détacher de ça et dit « voilà le résultat que vous faites et ça me plaît ou ça ne me plaît pas ». Alors qu'il n'a pas le libre arbitre, il n'a pas le sens critique pour dire « oui, je vois ce que ça peut devenir ». Non, ça ne peut pas devenir puisque c'est l'image, elle est là. Et donc on est paralysé par cette image. On est vraiment dans une société où l'image prime sur tout et écrase le son. Et donc le son n'est plus qu'un faire-valoir de l'image et non pas du tout une partie prenante de cette image.
Aujourd'hui, le développement de ce qu'on appelle le cinéma chez soi, à l'aide de dispositifs techniques qu'on appelle du joli nom de 5.1, c'est-à-dire il y a 5 enceintes et un caisson de grave, change complètement la manière dont on perçoit le son, dont on écoute le son d'un film, et ça a sûrement une influence aussi sur la manière dont on entend et dont on écoute la musique chez soi. Qu'est-ce que vous pensez du développement de cette nouvelle forme de haute fidélité? Je ne sais pas si le terme convient très bien.
Ben je pense qu'il n'y a qu'à voir la télévision. Vous regardez un film, vous réglez le son par rapport à ce film, on passe aux publicités et c'est 3 fois plus fort. Pourquoi? C'est 3 fois plus fort pour attirer un peu plus l'attention sur la publicité. Si vous écoutez un film avec tous les dispositifs possibles et imaginables que je n'ai pas, si vous écoutez un film avec ça et que le niveau sonore doit être très élevé pour correspondre à l'image, qui peut se permettre dans nos buildings modernes de pouvoir le faire? Donc c'est un leurre complet de penser qu'on peut être dans une salle de cinéma si on est chez soi. C'est un leurre, c'est pas vrai. C'est simplement un autre marché qui se développe et on profite de ce marché pour essayer de faire un peu plus d'argent. Mais en réalité, vous pouvez pas écouter l'image et le son au même niveau puisque de toute façon, vous allez emmerder vos voisins. Alors vous pouvez écouter ça à bas niveau si vous avez une excellente chaîne. Sinon, vous perdez tout, vous perdez les médiums, vous perdez les aigus, vous perdez les graves, vous n'avez plus qu'une image sonore d'une platitude désespérante qui est un tout petit peu enrichie, disons, par une espèce de pseudo-stéréo qui peut arriver derrière, qui peut arriver devant. En quoi ça nous correspond musicalement? De savoir que si j'ai une voiture qui arrive de la gauche et que mon son part de la gauche à la droite, quel enrichissement j'y trouve?
Mais dans une salle de cinéma, ça...
Mais dans une salle de cinéma, ça prend tout son sens.
Ça prend tout son sens.
C'est évident, mais voilà. Chez soi, je n'en vois pas vraiment l'utilité. En tant que musicien, en tout cas, moi, je n'ai pas ces appareils, et ça ne m'intéresse absolument pas.
Après le cinéma, je vous propose qu'on aborde un autre élément où la musique a toute sa place. Il s'agit de la danse. Qu'est-ce que vous pensez de la création musicale et de la création sonore qui est destinée au ballet? Et comment est-ce que cette place du son et de la musique dans la danse évolue avec maintenant de nouvelles formes de danse, la danse contemporaine
notamment?
Oui,
et je parle pour moi, mon premier choc... ça a été de voir le ballet de Béjart sur le Sacre du Printemps. C'était la musique de Stravinsky. Alors évidemment, c'est sublime. Mais l'idée de Béjart de se servir, entre guillemets, du Sacre du Printemps C'était extraordinaire parce que c'était évident, en tout cas dans sa chorégraphie, que c'était le sacre du printemps. Et ça, pour moi, c'est mon tout premier souvenir quand je suis allée voir un ballet contemporain, parce qu'à l'époque, c'était contemporain. Et du reste, il y a d'autres chorégraphes qui ont refait ça. Qu'est-ce que j'ai vu si au théâtre de la ville, comment s'appelle Gaston ce chorégraphe avec lequel Jean-Pierre a travaillé?
Verlet,
c'est
oui.
Ça
oui.
Et là c'était aussi, ça marchait très bien ensemble, mais je pense que dans là encore il y a le choix du chorégraphe, de ce qu'il a envie de faire. Alors, soit ça lui est dicté par la musique, et à ce moment-là, il y a le même respect que dans le théâtre, le cinéma, le compositeur, etc. C'est-à-dire que, vraiment, d'un seul coup, il y a une osmose extraordinaire entre le chorégraphe et la musique qu'il propose. Ou bien... ce sont de nouveaux compositeurs qui vont écrire pour une forme de spectacle qui a déjà été racontée probablement par le chorégraphe. Et à ce moment-là, le compositeur, lui, va plus ou moins rentrer dans cet esprit-là, ou en contradiction, ou au contraire en... Le contraire de la contradiction, c'est quoi ?
L'approbation.
L'approbation, voilà.
Moi, je dirais que... il faudrait qu'il y ait des compositeurs qui écrivent des ballets. La plupart du temps, ces ballets, même contemporains, se servent de la musique encore comme un support et non pas comme un double dialogue. Et dès qu'on parle support, le visuel prend encore le pas sur le sonore.
D'autant que les configurations de plateau ont changé. Et il devient de moins en moins courant d'avoir aujourd'hui les instrumentistes présents, que ce soit sur le plateau ou dans une fosse d'orchestre. Aujourd'hui, la musique qui accompagne un spectacle de danse est de plus en plus fixée sur un support et diffusée avec un mode de diffusion.
Oui,
vous
oui.
Le regrettez ?
Oui.
Oui, parce que la musique, quelle qu'elle soit, si elle sert pour un ballet, si elle sert pour le théâtre, elle est quand même vivante. Et le phénomène de diffusion, c'est pas vivant. Donc, si on voit le travail des danseurs, et Dieu sait s'il est formidable, peut-être est-ce que ça serait intéressant de voir aussi que ce travail-là, il est aussi porté par des musiciens qui actent même. Ça serait une communion, là encore, entre les deux travaux.
Il y a Jean-Pierre Drouet qui vient de faire un spectacle, enfin qui est en train, je sais pas s'il l'a créé encore, où le musicien est indissociable du danseur, c'est-à-dire qu'il est en même temps sur le plateau en tant que musicien, employé également en tant que danseur, le danseur est employé également en tant que musicien, le comédien est employé comme danseur et comme musicien, c'est-à-dire qu'il essaie de mélanger tous les genres sur un plateau pour arriver à une dimension de ballet, c'est-à-dire pour arriver à une dimension de danse. La danse est une chose qui a pris une importance capitale, il y en a énormément, et c'est bien. Pour autant, il n'y a peut-être pas assez de musique qui marche en même temps dans cette dynamique. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas assez de compositeurs qui se penchent sur le problème de la danse. Le danseur n'ose peut-être pas non plus aller voir le compositeur. Le compositeur n'ose pas non plus sortir de sa bulle pour aller vers une autre forme. Mais je trouve que, à l'heure actuelle, on parle d'un chorégraphe, on ne parlera jamais du compositeur qui travaille avec ce chorégraphe. On parle toujours de compagnie, on parle de spectacle, et on oublie la plupart du temps de mentionner sur quelle musique ils vont faire ça. Et ça, c'est symptomatique. C'est si on va voir Gisèle, À l'opéra, on sait que c'est tel compositeur, on sait que c'est... Bon, si on va voir Béjart, on sait qu'il va s'appuyer sur... Bon, si on va écouter le Boléro, on sait que c'est Ravel, etc. etc. Maintenant, aujourd'hui, le compositeur, il a un peu disparu de la scène de la danse. Et pourtant, la danse ne peut pas fonctionner sans la musique. Il y a des chorégraphes qui se lancent dans les chorégraphies sans musique. Ça, je respecte beaucoup. S'ils se servent de la musique, il faudrait que ce soit sur un plan d'égalité et non pas de faire valoir.
Après le corps sonore, je vous propose qu'on aborde maintenant les arts plastiques. De plus en plus de plasticiens abordent le domaine sonore, se font sculpteurs de sons, sculpteurs musicaux. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant et que ça renouvelle un petit peu l'approche du domaine sonore d'être ainsi mis en œuvre par des gens qui sont plutôt des gens issus des arts plastiques?
Ça peut être une démarche pour moi importante. On se heurte à un premier problème, c'est que l'instrumentarium n'a pas évolué depuis l'orchestre symphonique. À part l'enrichissement de la percussion, on est toujours dans une configuration architecturale classique. Et donc, ce concepteur qui va se lancer dans une sculpture sonore va se heurter à ce phénomène. Alors, soit on casse l'instrument, soit on va se servir de l'électronique, soit on va... Mais je vois mal comment un concepteur va lancer une sculpture sonore s'auto-censurer par rapport à l'instrumentarium qui existe. Bachet a essayé de faire quelque chose, mais ses instruments sont d'une pauvreté assez évidente pour moi. Et donc, je ne vois pas comment un concepteur voudrait créer une structure sonore avec le background de musique qui existe, sur l'instrumentarium.
Si on se sert de l'électronique, on peut complètement pervertir justement ce que tu disais, tout ce qui est instrumentarium. C'est-à-dire que malgré tout en électronique, le concepteur, il a, à mon avis, un peu plus de facilité avec cet outil-là. Encore que, il y a quand même bien des tracés qu'on peut... malgré tout pas pervertir, comme tu disais au début des conversations. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même toujours un peu les mêmes sons qui vont ressortir. Il faudrait être à ce moment-là quelqu'un de très savant, à mon avis, et d'être quand même un minimum compositeur pour pouvoir détourner peut-être l'objet son de son cadre bien précis pour l'amener justement à faire quelque chose de complètement nouveau. J'imagine mal comment ça peut se faire autrement.
Je parlais tout à l'heure de Kagel avec une pièce qui s'appelle Zweimann Orchestra. C'est une espèce de capharnaüm sur un plateau qui est gigantesque, manié par deux percussionnistes, enfin par deux musiciens plus exactement. J'ai tenté que le percussionniste ne soit pas musicien, hein. Mais disons que c'est une espèce de sculpture sur un plateau qui d'un seul coup se met en mouvement et donc rentre dans un concept de, d'esthétique, de création sculpturale, je dirais presque. Ça, c'est un premier chose. Je pense maintenant aux nouveaux compositeurs qui arrivent et qui font travailler l'interprète avec les ordinateurs qui travaillent en temps réel, avec les gestes qui provoquent les sons, etc. Peut être effectivement à ce moment-là l'individu devient une sculpture humaine qui va engendrer la musique. Le seul problème, c'est que ça tombe toujours sur des schémas électroniques qui sont d'une pauvreté rare et qui ne provoquent pas une nouvelle sculpture, je dirais ça. Et ça provoque simplement... c'est même pas le fait du hasard, hein, parce que de toute façon, s'il fait tel geste, il va obtenir toujours tel son. Donc, c'est mettre l'individu avec une idée de sculpture humaine qui engendre des sons. Le seul problème, c'est que les sons qu'il engendre ne satisfont pas du tout, parce que c'est toujours les mêmes. C'est toujours du
mais c'est ce que je disais
pauvreté
tout à l'heure.
Électronique.
C'est
alors,
ce que je
pense qu'effectivement, pour qu'un concepteur se lance là-dedans, il devrait aussi être compositeur.
Et le développement des capteurs et des moyens techniques aujourd'hui permettrait même au public de devenir l'interprète, simplement en se déplaçant dans un espace ou dans un volume, de
ça
déclencher les événements
bien
sonores.
Bien sûr,
ça s'est fait. Moi, je me rappelle une expérience que j'ai vécue d'une maternelle où le compositeur avait créé tout un espace ludique pour l'enfant qui, chaque fois qu'il se déplaçait, faisait la musique. Et avec la fantaisie de l'enfant, il arrivait à pervertir le système sonore qui était déjà mis en jeu. C'est-à-dire que par rapport à la non-inhibition de l'enfant, il arrivait justement à provoquer des événements sonores que celui qui avait imaginé la sculpture, qui avait imaginé le fonctionnement de cette sculpture, était dépassé parce que l'enfant, par son côté ludique, avait trouvé le système de jouer avec. Prenez un individu de public pour faire ça, il est totalement inhibé, il est totalement paralysé, et si on lui donne le moyen de faire de la musique par sa présence, cette musique va être pauvre, parce qu'il est inhibé, il est paralysé par... on n'accepte pas, dans notre société aujourd'hui, on n'accepte pas que l'individu puisse être musicien. On n'accepte pas que cet individu a une potentialité de richesse sonore, de création. On est dans un moule où l'individu est enfermé dans un système de non-création. Alors je ne vois pas comment, avec des systèmes électroniques, on pourrait donner à cet individu le moyen créatif.
Thank you. parlons maintenant, si vous voulez bien, de la radio, un espace de création sonore, une sorte de plateau sur lequel aussi de nombreux musiciens, de nombreux créateurs sonores sont intervenus, interviennent. On se souvient d'une époque où des compositeurs ou des ingénieurs, lui-même se désignait comme ingénieur, comme Pierre Schaeffer, réalisait des créations tout à fait innovantes. Comment est-ce que vous voyez évoluer la radio comme un espace de création musicale et sonore?
Ben, la radio a rempli un rôle essentiel pendant des années, avec notamment sa participation au Festival d'Avignon, qu'il commandait des œuvres des compositeurs qui était pour le Festival d'Avignon, mais qui en même temps était radiophonique. Gagel a fait énormément de pièces radiophoniques. La radio est un... C'est un outil, mais je dirais aussi que c'est un média qui est neuf. Neuf en ce sens que tout est encore possible à la radio. Il y a moins de contraintes qu'à la télévision. Donc, on pourrait se permettre beaucoup de choses à la radio. C'est un média qui, à mon avis, est un peu pauvre actuellement parce que l'image prime sur le son. Et donc, les gens sont plus tournés vers la création de l'image que vers la création du son proprement dit. Et la radio a un très gros défaut, comme à la télévision, c'est qu'on regarde toujours qui a écouté telle émission. Et s'il y a une audience qui n'est pas très forte, bien, on va passer à autre chose. Et ça, je pense que la radio devrait avoir, en tout cas la radio publique, devrait avoir une réflexion de promouvoir la culture radiophonique. Je pense que la culture radiophonique, pour le moment, elle est promue plus par les radios privées. Je ne parle pas des grandes radios, je ne parle pas de RTL, Radio Monte Carlo, etc. Non, je ne parle pas de cela, mais je parle de petites radios qui, elles, ont une recherche sur le phénomène sonore, qui ont une recherche sur une esthétique sonore, qui cherchent des choses qui sont évidemment en dehors de la ligne générale, mais c'est là, je pense, que l'espoir.
Au-delà des grandes radios publiques, France Culture, France Musique, qui conservent un rôle important en matière de création musicale et sonore, la radio se déplace aussi aujourd'hui beaucoup sur Internet. De nombreuses radios y sont très créatives et peut-être dans une démarche plus ouverte, plus de partage. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'Internet va provoquer certainement un renouveau du langage. Un renouveau du langage sonore. Je pense que Internet peut ouvrir beaucoup de portes. Mais en même temps, si on ouvre tellement de portes, je pense qu'on peut se perdre dans ces portes. Et que c'est un peu plus compliqué de se retrouver à l'intérieur de ça. Et puis, je pense que, honnêtement, nous sommes trop vieux, nous, pour avoir un regard sur ça. On est un peu paralysé par ce phénomène. Et comme on se perd un peu à l'intérieur de ce phénomène, je ne peux pas vous dire qu'on a une lecture très, très fiable de ce phénomène. On est largué, il faut bien le reconnaître. Hein, on est largué. On est largué sur beaucoup de plans. On est largué sur le temps qu'il faudrait consacrer à ça. Et notre temps, nous, il est compté, donc on n'a pas un regard très précis sur ce phénomène. Je pense simplement qu'il y a... Internet prend également le relais de beaucoup de choses. Je parle par exemple des maisons d'édition, qui sont partie prenante dans la création. Elles ne font plus leur travail. Je vois maintenant, j'ai encore reçu il y a un peu de temps une partition de Georges Apergis que je dois corriger parce qu'il en a ras-le-bol des éditeurs et maintenant il met ça sur Internet gratuitement pour que les gens qui ont envie d'avoir cette partition puissent l'avoir. Ça prouve que si le média qui est l'éditeur ne fait plus son travail, on va trouver sur Internet ce phénomène. C'est-à-dire que c'est Internet qui va prendre le relais de ça. Et je pense qu'effectivement, Internet, à un moment donné, va prendre le relais de la création. Mais je dois dire que je suis très, très mal placé pour dire ce qui est positif, oui, mais où on va le trouver, qui le fait, comment ça va se développer, je n'ai pas les clés.
Moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose par rapport à la radio. Alors, je pense, lorsque nous étions parisiens, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, on est allé plusieurs fois à Radio France pour des concerts qui, au demeurant, étaient gratuits. On n'a pas l'impression, enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une volonté farouche, du reste sur les ondes, c'est pareil, de consacrer un temps suffisant d'écoute pour proposer des compositions nouvelles ou moins nouvelles. On a toujours l'impression qu'il y a une sorte de bonne conscience de faire, par exemple, Festival Présence, où il y a de très belles choses, mais c'est une fois par an. Une fois par an, on a l'impression que, bon, voilà, on donne la parole à la musique de notre temps, etc. Mais si vous écoutez France Musique, France Culture, vous aurez pratiquement que de la musique classique ou romantique, et pas du tout la musique de nos jours. Or, comment est-ce qu'un public peut après ça se dire « Ah, ça j'ai aimé, ça tiens, tel compositeur, il va être joué, je vais aller au concert », il ne connaît pas. Donc, il n'est pas, on ne l'a pas pêché, je veux dire, on ne l'a pas harponné pour pouvoir l'emmener après ça dans une salle de concert. Or, la radio, c'est un service public, la radio au RTF, et j'ai pas l'impression que son service soit au service vraiment de toutes les musiques.
Il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus inquiétant, parce qu'on ne parle que de la création, on ne parle que du devenir de la musique. Moi, je voudrais attirer l'attention, et notamment par rapport à la radio, sur un phénomène qui est dramatique, c'est qu'on est en train de passer, d'enlever de la mémoire tout ce qui a fait que la musique aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Alors, on a recherché la musique classique, on a bombardé les genres de musique classique, on les a bombardés de musique
romantique.
Romantique, mais puis on est remonté dans le temps, on est passé à la musique baroque, etc. Qui connaît maintenant les grandes œuvres du XXe siècle en musique contemporaine? Qui se permet de diffuser des pièces de Cage? Qui se permet de diffuser des pièces de Stockhausen, de Luciano Berio, de Bussotti, de Berio, de Boulez, de tous ces gens-là qui ont construit le socle sur lequel on est maintenant? Il y a une absence totale de cette communication. Plus personne ne sait pourquoi on compose aujourd'hui comme ça, alors que c'est évidemment parce qu'il y a eu ça avant. Plus personne ne le connaît. Pourquoi on a tardé tant que ça en France, a monté Wagner. Mais Wagner, c'est la lignée directe qui amène à Schoenberg. Qui connaît Schoenberg aujourd'hui? Qui se permet d'écouter Schoenberg à la radio? Personne. Qui connaît Webern à la radio? Personne. On est en train de gommer complètement un mouvement musical, et la radio a un devoir, qui est un devoir de mémoire, qui est un devoir de faire connaître cette musique pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Plus personne ne le fait. Qui connaît Moment de Stockhausen, qui est pour moi au moins aussi importante que le sacre? Eh bien, personne. Personne s'en occupe. On va faire un petit truc, alors chaque compositeur va apporter sa petite pierre. Elle vient d'où, cette pierre? Quel est le socle qui a construit cette pierre? Personne ne le sait. Et tout le monde s'en désintéresse totalement. Et ça, je trouve ça absolument hallucinant.
Il y a le même blackout que lorsque nous étions au conservatoire. On ne parlait absolument pas de toute l'école Webern, Berg, etc. C'est malheur, même malheur. Ça n'existait pas. Il n'y avait vraiment que la musique romantique, classique, baroque, on touchait pas trop. Et puis Debussy, Ravel, voilà, ça s'arrêtait là, Poulenc à la rigueur. Mais toute l'école de Vienne était complètement ignorée. Et ce qui est plus grave maintenant, c'est que il y a beaucoup de cette école justement de Vienne qui est devenue classique et qui est, comme disait Gaston très justement, le socle de tout ce que les jeunes compositeurs peuvent écrire maintenant, qu'ils aillent contre ou avec, mais peu importe, il y a eu une espèce de ils ont reçu ça. Et la radio devrait au contraire aider, et elle ne fait, à mon avis, et je rejoins Gaston, elle ne fait pas son travail.
Eh bien, nous allons essayer de continuer à faire le nôtre, puisqu'on se retrouve demain avec Brigitte et Gaston Sylvestre, on parlera des musiques du monde. Au cours de cette émission, vous avez pu écouter des extraits sonores d'Eric M. pour un film de René Clair, de Pierre Henry pour Dracula, d'Eric M. encore pour la chorégraphe Mathilde Monnier, Le Fusain fuit la gomme, une pièce composée par Marie-Hélène Fournier, et on se quitte avec la deuxième sequenza de Luciano Berio, Brigitte Sylvestre à la harpe. À demain.